et bienvenue dans cette émission du 17 juillet 2023 de MaWeb TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Dans cette émission, nous allons aborder la question de la privation et de l'abandon de soins au cours de la crise Covid. De quoi s'agit-il ? Nous avons déjà montré comment l'épidémie de Covid-19 était en réalité de l'ordre de gravité d'une épidémie grippale annuelle. Et comment c'est en réalité le fait d'avoir arrêté de soigner les gens, les personnes malades, qui a entraîné des dégâts qui auraient été très largement évitables autrement. Et la réalité de la gravité et de l'étendue de la privation et de l'abandon de soins est en effet quelque chose qui est encore totalement occulté, tant par les autorités politiques et médicales que par les médias. Car le problème est encore plus vaste que d'avoir laissé des malades sans soins. On a même refusé des soins intensifs à des personnes qui en auraient eu besoin en mars-avril 2020, alors que les hôpitaux étaient en grande partie vides. On a aussi choisi de provoquer la mort de patients âgés plutôt que de les soigner, ou même de leur laisser une chance de survivre par eux-mêmes dans les EHPAD en France. Voyons tout cela. Qu'en est-il réellement ? Commençons par un petit rappel, et je renvoie évidemment à mon émission sur les traitements précoces pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus. 70% des décès dus au Covid auraient pu être évités en soignant normalement, l'étude publiée dans plus de 102 pays différents. Comment est-il possible qu'une telle masse de données ait été niée et occultée ? Ce sera bien sûr l'objet d'émissions plus tard dans cette série. Calculons simplement le nombre de victimes que cette manipulation aura fait. On attribuait, selon les statistiques mondiales officielles, au 6 avril 2023, 6 889 743 décès dus au Covid à travers le monde. Observons une nouvelle fois que 6 900 000 morts sur 3 ans, alors que les infections respiratoires font en moyenne 4,5 millions de décès par an, on est effectivement dans un ordre de gravité très modique. Mais voilà, il se trouve de surcroît que 70% de ces personnes auraient pu être sauvées si on les avait soignées avec les traitements précoces, efficaces, disponibles. Alors si on fait le calcul, ça fait 4 822 820 victimes des politiques directes de privation de soins mises en œuvre à l'échelle internationale et appliquées par nos gouvernements dans nos pays respectifs. Alors je vais vous donner maintenant tous les détails concrets de cette réalité de la privation et de l'abandon de soins, en m'appuyant à nouveau, bien sûr, sur les travaux décisifs de Pierre Chaillot et Eusèbe Riocher, que j'ai déjà mentionnés dans de précédentes émissions, qui sont l'auteur de deux ouvrages de référence que je vous conseille, en rappelant que Pierre Chaillot est statisticien et que Eusèbe Riocher est docteur en sciences. Et d'ailleurs, ils viennent de publier ensemble un article dans France Soir intitulé « Covid-19, sans soins, on survit moins bien ». Alors, reprenons toute l'affaire. On a contraint les personnes malades à rester chez elles avec du doliprane en attendant une éventuelle aggravation de leur état. Heureusement, comme le Covid-19 n'est pas très grave, plus de 98% des malades ont guéri spontanément en l'espace de quelques jours avec des symptômes d'infection respiratoire banale. Mais certaines personnes à risque ont hélas développé une forme grave, avec un passage de la phase respiratoire à la phase vasculaire de la maladie, caractérisée, et là avec un pronostic qui malheureusement devenait compliqué. Or, l'IHU Méditerranée Infection a informé très tôt que les patients concernés, lors de ce passage, connaissaient une décompensation, c'est-à-dire une baisse marquée de leur taux d'oxygène sanguin, plusieurs jours avant de devoir être hospitalisé, mais sans en être conscient. Le propre de l'hypoxie heureuse, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas observer par soi-même qu'on est déjà dans une baisse marquée de l'oxygène sanguin. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'hypoxie heureuse. Alors je renvoie évidemment aux travaux de l'IHU et notamment du professeur Parola et du professeur Brouki sur ce fait identifié très tôt sur place. Mais donc avec un simple oxymètre de pouls qui coûte 20 euros en pharmacie, ça veut dire que n'importe quel malade aurait pu monitorer son taux d'oxygène sanguin. Il est habituellement à 98 ou 99%. En dessous de 95%, on considère que ça devient insuffisant. Et à partir de 90 et en dessous, ça devient grave. Et donc, avec ce simple système, il aurait été possible pour les personnes de repérer quand elles baissaient jusqu'à 95% et demander de l'aide, par exemple avec une oxygénation à domicile qui est très simple à mettre en œuvre, dès que ce taux était atteint. Au lieu de faire connaître cette possibilité ou de laisser les médecins suivre leurs patients, on a laissé les personnes se détériorer jusqu'à devoir, pour les personnes concernées, être hospitalisées en urgence, souvent alors justement qu'il était déjà trop tard. Un autre constat terrible est apparu depuis. On sait comment, lors de la grippe espagnole, qui a fait 80 millions de victimes à peu près à une époque où la population mondiale était 4 fois sur infection bactérienne et non du virus de la grippe. C'est-à-dire que le virus de la grippe espagnole a affaibli leur organisme, mais c'est des surinfections bactériennes qui ont provoqué leur décès à une époque où nous ne connaissions pas les antibiotiques. Et donc, correctement soignée avec les moyens d'aujourd'hui, la grippe espagnole, au lieu des 80 millions de victimes, en aurait fait 4. 4 millions de morts au lieu de 80 millions. Mais dans le cas du Covid, nous avons découvert tout récemment que nombre de malades sont également morts à cause de surinfections bactériennes, mais non pas parce que nous n'avons pas d'antibiotiques, mais parce qu'on a renoncé à les utiliser, ou même qu'on a interdit aux médecins de les prescrire. Regardez plutôt. Une récente étude a montré que une grande partie des personnes décédées du Covid à l'hôpital, notamment toutes celles qui ont été intubées, ont connu, à hauteur de plus d'une personne sur deux, des surinfections bactériennes fatales. Quand on regarde l'utilisation des antibactériens systémiques ou des antibiotiques, la grande épidémie de grippe de 2018-2019, ce sont les chiffres officiels de l'assurance maladie en France, et on voit qu'il y a une certaine consommation d'antibactériens, et puis à partir de mars 2020 et dans les mois qui suivent, un effondrement de la prescription des médicaments correspondant à des infections. Si on regarde les macrolides, cette classe d'antibiotiques particulièrement recommandée dans les pneumopathies, même chose, on voit une prescription massive en 2018-2019, mars 2020 également, et un effondrement droit derrière. L'azithromycine, qui est l'antibiotique de référence pour ce type de maladie, augmentation de la prescription en mars, baisse en avril, effondrement au mois de mai 2020. Et donc, en réalité, on a interdit aux médecins de soigner avec les antibiotiques qu'il fallait. Je rappelle par exemple le livre du docteur Jean-Jacques Herbstein, « Je ne pouvais pas les laisser mourir », qui raconte comment il a été persécuté par la technostructure et l'ordre des médecins pour avoir utilisé avec des confrères dans le Grand Est des antibiotiques pour soigner les patients. Même chose pour les antithrombotiques. Dès lors que dans la phase grave, il y avait des caillots de sang et des thromboses, bah évidemment que c'était une bonne idée de prescrire ces médicaments. Donc il y a une forte augmentation en mars 2020 et un effondrement juste après. Et donc, la réalité, c'est qu'en pleine épidémie, on a atteint un record historique de sous-prescription des médicaments indiqués pour soigner ladite épidémie. Pendant qu'explosait la prescription de Rivotril injectable, qui, je le rappelle, est un médicament qui fait arrêter la respiration et qui était prescrit massivement dans les EHPAD. Alors, il faut vraiment mesurer la gravité de ce que j'évoque ici. On a interdit dans nos pays les traitements précoces qui auraient sauvé 70% des malades décédés du Covid. On a privé les malades du moyen de surveiller leur taux d'oxygène sanguin et de détecter un besoin d'aide avant qu'il soit trop tard. On a insuffisamment traité les surinfections bactériennes dont on savait qu'elles pouvaient être mortelles pour les patients. Et donc, je ne sais pas comment qualifier ces choix médicaux. Absurde, c'est faible. On est carrément dans le registre du criminel. 20, on a refusé l'hospitalisation à des personnes âgées qui étaient dans un état grave et qui avaient le plus besoin de soins. On a limité l'accès des services de soins intensifs à l'intérieur des hôpitaux à ces personnes âgées, alors que les statistiques hospitalières ont révélé que ni les hôpitaux ni les services de soins intensifs n'ont jamais été surchargés, ils sont restés très largement inoccupés. Alors voyons ceci dans le détail avec Eusèbe Riocher. La Covid-19 cible principalement les personnes âgées, 89% des personnes décédées avaient plus de 70 ans. Or, les statistiques de Santé publique France montrent que les plus de 70 ans ont été chassés des services de réanimation pendant la première vague épidémique. Les plus de 70 ans, donc les plus à risque de mourir, composaient 42% des réanimés seulement au début du premier confinement, et ce taux a baissé de 10%, on n'était plus qu'à 32% quelques semaines plus tard. Et donc, alors que seulement 36% des lits, toutes spécialités confondues en soins intensifs, étaient mobilisés, eh bien, on a refoulé les patients âgés de plus de 70 ans des services de réanimation. Et donc, conclut Eusèbe Riocher, des crimes ont été commis en toute connaissance de cause. Il y a eu des refus de soins qui ont été organisés dans les hôpitaux français, volontairement, officiellement, par exemple, dans les recommandations de l'ARS Île-de-France, datant du 20 mars 2020, et définissant les règles à appliquer pour décider qui serait soigné en hôpital et qui ne le serait pas. Alors le document évoqué ne mentionne pas littéralement le terme de refus de soins parce que c'est illégal. Il est donc fait mention de limitation des traitements ou de retrait de traitement et d'une préconisation en lieu et place de la prise en charge curative, de prise en charge palliative aiguë, c'est-à-dire le droit à une analgésie proportionnée ou à une sédation profonde jusqu'au décès, c'est-à-dire littéralement une euthanasie. Alors j'ai développé dans une autre émission à laquelle je vous renvoie cette question du meurtre, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler en français cette réalité de masse commis dans les EHPAD en mars-avril 2020. Vous aurez toutes les données sur ce volet de la question, mais pour résumer, et je cite à nouveau Eusèbe Riocher, « Selon toutes les apparences, les autorités sanitaires et politiques françaises ont tout fait pour que les malades du Covid-19 meurent en masse, en suivant cinq stratégies simultanées, refuser l'accès aux hôpitaux à la majorité des malades, c'est-à-dire les personnes âgées, refuser l'accès aux services de réanimation aux personnes âgées hospitalisées, conseiller des traitements inutiles, interdire les traitements efficaces, tuer au lieu de son science de mal faire, ni surtout de la gravité de ce à quoi elles participaient réellement, mais le nombre de victimes est phénoménal, elles ont été tuées délibérément, et donc la conclusion, je n'en vois pas d'autre. Je cite à nouveau Eusèbe Riocher, le Covid-19 n'est pas un drame sanitaire, mais en réalité un crime de masse. À demain.